Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Encore une très belle affiche hier soir au Printemps de Bourges. Charlotte Gainsbourg, le nouveau phénomène Élie de Préto et Arthur H se sont succédé sur scène. Le compte-rendu de Steven Bellery dans un instant. Nous irons aussi dans l'est de la France où le centre Pompidou-Metz propose à partir de demain une exposition consacrée aux couples de créateurs. Nous suivrons notre guide Sophie Orange. On découvrira dans nos express du jour une nouvelle chanson de Stromae. Et puis à la télévision ce soir, le retour de Candice Renoir sur France 2 et Florent Pagny à l'honneur sur France 3 dans un documentaire qui retrace son parcours. Ce seront les choix d'Isabelle Morini-Boss.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais avant tout, une très belle histoire. Direction Dunkerque où la chorale Salt and Pepper, composée de seniors, poivre et sel, vous l'avez compris, enregistre actuellement un disque de reprise rock. Ses papis et mamies ont été repérés par le label Universal Music France et leur album sortira cet été. Maxime Wolf, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes un de nos correspondants dans le Nord et vous leur avez rendu visite hier en studio en pleine séance d'enregistrement.
Ah non, tout le monde n'est pas avec moi là. Let's go, continue.
Ambiance professionnelle au studio 34 de Dunkerque, sur la scène entourée de dizaines de micros, les Salt and Pepper, première chorale rock senior d'une trentaine de retraités de 60 à 80 ans.
Ça plane pour moi.
Le succès, au début, on l'a constaté tout de suite, c'est que les gens, ils arrivent et ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces vieux cons qui font du rock ?» Et l'association des deux, ils sont scotchés, quoi.
Partager notre joie, notre bonheur, notre joie de vivre et notre jeunesse.
Et pour arriver à ce résultat, la chef des chœurs, Nathalie, doit cadrer tout ce beau monde.
Il faut avoir de la patience, bien évidemment. Quand on vieillit, on est moins souple, dans le corps, dans la voix, dans la tête. Donc il faut répéter les choses plusieurs fois, mais ce qui fédère, c'est l'envie, avant tout. C'est la scène, c'est cette adrénaline qu'on ressent quand on est Mick Jagger, j'imagine. Ben, eux, ils veulent la ressentir aussi encore.
Dites-nous, Maxime, comment le lien s'est fait entre ces retraités amateurs et Universal, la plus grande major musicale?
Eh bien, c'est Martin Toléton, qui a présenté Salt and Pepper à Universal Music. Il est tombé sous le charme, mais garde aussi le souvenir d'un certain casse-tête.
Qui sont moins disponibles en fait que d'autres artistes. Parce qu'ils sont à la retraite, ils ont quand même 12 activités, tous des petits-enfants. Enfin, c'est, le planning, c'était quand même, c'était une tannée à finaliser. Ils étaient toujours, moi je suis ici, moi je pars en vacances. Attendez, t'es à la retraite, on est censé avoir le temps, quoi. C'est nous qui n'avons pas le temps. Et il y a un truc très contagieux quand on les voit chanter à leur contact, c'est-à-dire de voir des personnes de plus de 60 ans se rassembler et s'éclater ensemble une après-midi à chanter des chansons de rock qui ont bercé leur enfance. Il y a un truc très contagieux et très authentique. On cherchait pas une chorale, on est tombé dessus et on a trouvé ça génial.
Avec plus de 90 concerts lors de fêtes locales ou dans les hôpitaux ou prisons, les Salt and Pepper s'apprêtent maintenant à sortir leurs disques et à faire la promotion de leurs bijoux.
On a une chance inouïe, c'est formidable, quel bonheur, quelle joie, c'est incroyable.
On a hâte de mettre la musique à fond dans la voiture.
On aime donner du plaisir aux Dunkerquois.
Mais là, c'est plus qu'aux Dunkerquois, là.
Oui, là, ça va s'étendre.
On attend que ça, bien sûr.
Moi, j'ai dit que ce que j'espérais, c'était que bientôt, on va mourir hein, quand même. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Et en même temps, j'aimerais qu'elle continue cette chorale pour ce qui est d'autres petits vieux qui arrivent et qui chantent. Ouais, voilà, c'est ça mon objet. Non, mais vraiment. Hein.
Plus tard, ce ne sera plus une chorale rock, ce sera une chorale rap.
Peut-être.
L'enregistrement est terminé, il ne manque plus que le mixage et la sortie du disque est prévue fin juin.
Rock and roll is not good.
C'est un moment merveilleux, c'est incroyable. On termine avec David Bowie en plus. Oui, Maxime Wolf et ses copains de la chorale Salt and Pepper à Dunkerque. Alors, c'est pas fini parce qu'on va partir à Bourges, on va aller à Metz. Enfin bon, bref, on parcourt la France dans Laissez-vous tenter ce matin. Restez avec nous, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et nous poursuivons en musique ce Laissez-vous tenter. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Vous êtes toujours en direct de la... Vos camarades vous saluent. Et moi par la même occasion. Vous êtes toujours en direct de la 42e édition du Printemps de Bourges, le premier festival de la saison. La soirée d'hier a débuté avec la sensation Élie de Préto, Steven.
Oui, il a déjà vendu 60 000 exemplaires de son premier album intitulé Cure et paru il y a moins de 2 mois. Élie de Préto, casquette blanche, jogging et t-shirt dégage une assurance et une énergie assez stupéfiante. Voici Random, c'est du live, c'était hier.
C'est le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui gagne, comme j'ai pas compris les gars, même s'ils m'ont.
m'emprisonne. Faut que si j'ai pas la cote comme ça, je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'il m'emprisonne. Faut que si j'ai pas la cote comme ça.
Le décor est industriel, grillage et néon. Eddy de Pretto bouffe la scène, il déroule ses morceaux sur la banlieue, la virilité, l'homosexualité de sa voix magnétique. Le chanteur originaire de Créteil m'a épaté, d'autant plus qu'il n'est accompagné que d'un batteur sur scène et de son téléphone. Confidence.
Parce qu'il fait partie intégrante de ma vie. Je travaille dessus, je fais des réseaux dessus, banalement. Et je suis addict, oui. Je suis dingue avec ça. Faut que je fasse une cure, justement.
Comment ça marche ? Expliquez-moi, vous avez les musiques instrumentales de toutes vos chansons dans votre téléphone ?
Ouais, et je les lance. C'est mon petit groupe à moi. Il y a un côté conquérant, attraper les âmes comme ça, une à une, et cette niaque-là, cette envie folle de monter et d'y aller face à une foule et d'attraper les gens un à un, et un combat de fleurs, quoi, tu vois, un truc méga doux.
Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que vives sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents. Sur la piste d'argent, c'est la fête trop. Moi je l'ai fait, et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête trop.
Clairement pas le concert de trop. Eddy de Pretto sillonne la France pendant encore un an dans les plus gros festivals cet été et au Zénith de Paris le 22 mars 2019.
Alors vous êtes resté au Palais d'Oron puisque Charlotte Gainsbourg est venue défendre son dernier album Reste, paru à l'automne.
Oui, et auréolée de sa victoire de l'artiste féminine, Charlotte Gainsbourg a livré un show d'1h15 parfaitement maîtrisé, d'abord en termes de scénographie, 10 cadres lumineux sur scène et 8 rectangles rétroéclairés au-dessus des 5 musiciens, une ambiance en clair-obscur, stroboscopique. Ensuite, parce qu'elle s'envole, Charlotte Gainsbourg prend enfin du plaisir. Gainsbourg se cache encore derrière son clavier, n'est jamais éclairé de face, mais une barrière est tombée. On se souvient de ses tours de chant, disons, chaotiques. Quel bonheur de la voir bien plus légère hier soir.
J'y allais toujours à reculons. Je sentais que c'était pas mon élément et je me forçais. Alors qu'aujourd'hui, j'aime vraiment être là. Je sais pas si ça va être réussi ou raté. Chaque soir, c'est plutôt dangereux et très aléatoire. Je sais que j'ai que ma voix, que j'ai que mon physique. Je suis accompagnée de musiciens que j'adore. J'aime bien tenter ma chance et que ce soit pas quelque chose de totalement contrôlé. J'ai pas une voix très contrôlée de toute façon, donc les accidents, j'espère, me sont utiles. Je suis juste heureuse d'être là. J'ai des chansons dont je suis fière. J'essaye d'être juste sur le moment, en fait. Hein.
Rien que pour l'entendre reprendre deux titres de 1986 écrits par son père, Charlotte Forever ou Lemon Incest, il faut aller voir Charlotte Gainsbourg le 3 juin au festival Wheel of Green à Paris ou le 16 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon.
Et vous avez terminé la soirée au théâtre Jacques Coeur en compagnie d'Arthur H. 20 jours après la disparition de son père, Jacques Higelin, le chanteur avait tenu à être présent, Steven.
Oui, Arthur H. a d'ailleurs relevé qu'il ne chantait pas n'importe où.
Je suis très heureux de jouer au Printemps de Bourges. Dans la salle, Jacques Coeur, Jacques Grand Coeur, Jacques Énorme Coeur, Jacques Joli Coeur.
L'ombre de Jacques Higelin a plané toute la soirée, d'abord dans le morceau d'ouverture Brigade Légère sur la tribu Higelin, extrait d'Amour Chien Fou, formidable double album d'Arthur H paru en janvier, puis dans un autre titre, Le Passage, où il évoque un cœur qui s'apaise. Mais j'ai choisi de vous faire écouter un moment de tendresse, La Boxeuse Amoureuse.
Tomber, ça n'est rien. Puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse.
Ah, moi Moi, j'aime aussi cet autre versant d'Arthur Ashe qui n'a pas interrompu sa tournée après le décès de son père. J'ai demandé au chanteur pourquoi il avait repris la route immédiatement après l'incroyable hommage à Jacques Higelin au Cirque d'Hiver.
J'étais plein de tout cet amour et toute cette tristesse aussi. Après, j'ai enchaîné avec 6 concerts. Je me suis dit, là, je suis fidèle à mon père parce que lui, c'était tellement un saltimbanque sur la route, un zigane, que moi aussi, je suis un zigane. Pour revenir à la cérémonie, elle était vraiment, pour moi, salutaire parce que tellement pleine d'énergie, de poésie, d'amour. Et quand je revois Isia comme ça, parler au cercueil, parler aux gens, on s'est permis beaucoup de liberté, en fait, en étant toujours très fidèle à l'esprit de notre père, à l'esprit aussi du public, des gens qui étaient là, qui l'ont beaucoup aimé. Pour nous, ça a beaucoup aidé à faire le deuil parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est sortie, on a beaucoup pleuré, beaucoup ri. Et à la fin, c'était quand même quelque chose de joyeux, finalement, quoi. L'enterrement d'un roi, quoi. Rien que le fait de foutre le cercueil au milieu du cercle, du cirque d'hiver, rien que ça, c'était très très beau et très très touchant. Le Printemps de Bourges avec des gens comme Jacques au départ, c'était un peu la chanson libre, la chanson ouverte, la chanson démesurée. Et puis il faut pas perdre cet esprit-là aujourd'hui. Et pour moi, le fait qu'il soit parti, ça correspond au fait qu'il peut aussi disséminer son esprit partout en nous et qu'on doit être vraiment fidèle à cet esprit de liberté que lui a superbement bien défendu.
Chérie, chérie, laisse-moi te délivrer de ton palais doré.
Arthur Ashe est en tournée jusqu'au 18 décembre. Il chantera le 14 juillet au Franco de La Rochelle ou encore le 9 octobre, salle Pleyel à Paris.
Ma reine de cœur, ma reine de cœur.
Merci beaucoup Steven Bellery. Fin du Printemps de Bourges, je le rappelle, dimanche, on a passé un excellent moment et c'était très émouvant d'entendre Arthur Ashe évoquer son père, en plus de cette voix qui nous trouble depuis de nombreuses années.
Les Express LVT.
Nos Express du jour, livrés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
Et on ne pouvait pas commencer nos Express sans la sortie du tout nouveau morceau de Stromae.
5 ans après Racine Carrée, son album vendit à plus de 2 millions d'exemplaires. Le Belge nous fait un beau cadeau aujourd'hui avec la sortie de Défilé, composé spécialement pour les défilés de sa nouvelle marque.
Elle défile, on voit nos vies défiler sur le fil. On voit les années filer. On essaye de filer droit. Et on peut pas rembobiner tous ces nœuds dans nos vies. Si on pouvait les dénouer.
Ça fait du bien, non, de le réentendre. Alors, pas de nouvel album en perspective pour le moment. Les plus chanceux l'ont donc déjà entendu sur les podiums et le clip sort aujourd'hui pour tout le monde.
En tout cas, il y a une belle ambiance. Hein. Elle aussi est de retour. Plus de 4 ans après son dernier album, Amel Bent dévoile ce matin une toute nouvelle chanson.
Au premier extrait de son 6e album à paraître à l'automne, un disque qu'elle a préparé avec une nouvelle équipe d'auteurs-compositeurs. Elle n'a donc pas écrit sur cet opus pour l'une des premières fois de sa carrière et pour cause. Amel Bent n'avait pas vraiment envie de revenir à la musique. Ce sont les chansons qu'elle a reçues qui l'ont convaincue de revenir. Après 2 grossesses, l'artiste de 32 ans s'était complètement déconnectée de la musique. Elle s'est confiée à Steven Bellery sur ce désamour et présente pour RTL sa toute nouvelle chanson, Si on te demande.
Pendant ma grossesse et évidemment après avoir donné naissance à ma première fille, j'ai eu un rejet complet de la musique, mais avec un grand M, c'est-à-dire que je ne voulais pas que ma fille me voie chanter. On me disait forcément pour rire, bah, à la maternité, oh, vous allez lui chanter des belles comptines puisque vous êtes maman chanteuse. Et je disais non, pas du tout, je voulais être maman. Mais au point que la première fois que j'ai chanté un air à ma fille, elle s'est mise à hurler de peur. Et je me suis dit, bah, finalement, cette voix, quand j'ai eu plus envie de chanter, bah, je l'ai abandonnée en fait. Je l'ai mise de côté, je l'ai délaissée. Ne pas chanter 2 ans et demi, c'est criminel. Donc quand je reprends des cours de chant, j'ai une autre voix. J'aime la voix que j'ai aujourd'hui, peut-être plus qu'avant. Si on te demande, pour moi, c'est le morceau que j'attendais depuis ma philosophie. C'est pas marqué par un style en particulier. C'est un peu up-tempo, donc on a envie de bouger la tête. Mais à la fois, le texte, il est super profond. Moi, chaque fois que je la chante, franchement, j'en ai les larmes aux yeux. Je regarde ma vie avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus d'autodérision. C'est normal, heureusement. Si on te demande, c'est la voix au service des mots et c'est pas l'inverse. Faut qu'on entende ce que je raconte.
Si quelqu'un te demande, tu ne sais rien. Ma vie est une série qui n'a pas de fin. Tu me trouves trop consignante, oui je le sais bien. J'essaie de rester souriante, ça maque les chagrins. Et je dessine des cœurs sur les ratures. Je repeins mes pères. la voix éraillée. Si on te demande, est-ce que je vais bien? Dis-leur que je suis mère, jamais une mère ne se plaint.
Si on te demande, signé Kheireddine Soltani, c'est l'auteur du tube Je veux pour Zaz. Amel Bent repart en tournée l'an prochain. Elle chantera notamment les 8 et 9 février au Grand Rex à Paris. L'album est pour l'automne.
On parle de cinéma maintenant ?
Oui, un tout petit mot pour vous dire que La Chute du producteur Hervé Weinstein sera bientôt adaptée au cinéma. On a appris cette nuit que Brad Pitt va produire un film qui racontera l'histoire des journalistes qui ont révélé ce scandale sexuel. Un scandale sexuel des plus retentissants de ces dernières décennies aux États-Unis.
Et puis Olivia, cette autre info. Vous êtes salué par des tirs de feu d'artifice de toute cette radio qui vous aime tant. On vous souhaite un très très heureux anniversaire.
Merci, on donne l'âge ou pas ? Pardon.
Ça la regarde.
J'ai 25 ans.
Voilà, c'est un joli.
Elle a deux ans et demi. Voilà.
Merci beaucoup.
Bon anniversaire, on était heureux de vous avoir. Allez, on part directement à Metz maintenant, exactement au centre Pompidou Metz où vous nous emmenez, Sophie Orange.
Bonjour.
Nous allons découvrir avec vous ce matin Couple moderne, c'est au pluriel, une exposition que vous avez vu en avant-première.
Couple moderne, ce sont 40 couples, 40 histoires, 40 parcours, tous aussi différents les uns que les autres. Leur point commun, l'art, à tous les sens du terme, peinture, sculpture, design, architecture, entre 1900 et 1950. La création qui a élevé ces couples, parfois transfigurés, mais parfois aussi détruits. Pablo Picasso d'Oramar, André Breton Nadja, Vassili Kandinsky, Gabriela Munter, Max Ernst, Leonora Carrington, Jean Harp, Sophie Teuber Harp. Au total, 900 œuvres sont présentées, un tourbillon d'art vraiment, dans lequel on chemine avec curiosité et éclectisme. C'est passionnant, c'est ambitieux. Le couple zone fertile d'échange, couple déclencheur créatif. Voilà ce que vous découvrirez dans cette exposition pensée construite depuis plus de 3 ans avec une belle énergie par Emma Lavigne, la directrice du Centre Pompidou-Metz.
C'est une relecture de l'histoire de l'art moderne. Une histoire qui n'est plus faite en solitaire ou au sein d'un mouvement, mais à 4 mains, à 2 pensées et qui est traversée par l'intimité et l'amour. Le couple est une matrice. Il y a ce phénomène d'imprégnation mutuelle, de porosité, cette capacité à deux de se réinventer encore davantage et d'emmener la création encore plus loin.
Et des couples qui inventent même des mouvements artistiques. On peut citer le rayonnisme créé par le couple Goncharova-Larianov ou le tactilisme fondé par Benedetta Capa et Filippo Marinetti.
Alors racontez-nous, Sophie, comment est née cette exposition ?
Eh bien, d'une histoire secrète, d'une passion secrète fusionnelle entre Marcel Duchamp et une célèbre sculptrice brésilienne, Maria Martins. Emma Lavigne découvre ses œuvres et remonte le fil de ce couple caché qui a transfiguré le peintre avant-gardiste et elle part à la recherche d'autres couples modernes. Au passage, Deschamps qui aimait pourtant répéter qu'il ne voulait pas s'embarrasser de femmes, d'enfants, de voitures, ils mettaient tous en même plan. Il a moulé le corps nu de son amante, ses bras, ses seins, ses jambes et même conservé, dit-on, ses poils pubiens. Pour la première fois en France, une sculpture de Maria Martin s'est présentée ici, un corps humain prolongé par une liane.
Alors une remarque tout de même, si je peux me permettre, dans les noms que vous citez depuis tout à l'heure, on connaît mieux les hommes que les femmes.
C'est vrai, d'autant que dans certains cas, les femmes prennent même le nom de leur mari. Mais le couple a aussi permis à certaines artistes de sortir de l'ombre, poussées par leurs compagnons. Un exemple, Jean Badovici, qui a poussé Ellen Gray pour devenir l'inventeur, la créatrice de l'architecture moderne, alors qu'elle était au départ décoratrice. Couple d'artistes vecteur d'émancipation des femmes. Couple d'artistes, couple moderne, qui devient parfois un carcan. Chloé Pitiot, conservatrice au Centre Pompidou, retient 2 exemples avec Emma Lavigne.
C'est compliqué dans un couple de faire en sorte que chacun puisse exprimer son art dans toute sa dimension. Par exemple, Picasso va demander à la photographe d'Oramar de renoncer à la photographie. D'Oramar, qui est sacrifié. Autre exemple, la compositrice Alma Mahler, son mari va lui demander de renoncer à la musique.
La juxtaposition de 2 talents fait qu'il s'agit d'un combat, d'une forme de tauromachie qui peut être aussi destructrice.
Comme par exemple ses costumiers et danseurs Lavinia Schultz et Walter Hold, elle finit par tuer son compagnon avant de se suicider en 1926. Le couple plus abouti, cette fois-ci plus heureux.
Oui, je vous le souhaite.
Couple plus complet, si j'ose dire. Robert et Sonia Delaunay, vous entendez, ça grésille, c'est d'époque. Robert et Sonia Delaunay qui sont allés, comme elle disait elle-même, jusqu'au soleil. Nous nous sommes aimés dans l'art. Couple indestructible, amateur de danse et de tango.
C'est comme un ballet, les Delaunay. C'est un couple coloré. Ils vont passer de l'art textile à la peinture. C'est l'un des couples, en tout cas, de notre exposition, peut-être le plus équilibré entre le rôle de l'un et de l'autre. Chacun s'exprime pleinement dans son domaine avec un profond respect mutuel, à la même hauteur, à la même valeur.
Et vous découvrirez leur fameuse forme circulaire colorée, c'est vraiment superbe, mais aussi moins connue, des échantillons de tissus très émouvants, si délicats, créés par Sonia Delaunay. Couple moderne, vous l'aurez compris, c'est foisonnant, c'est audacieux, vous verrez des chefs-d'œuvre, parfois certains jamais vus en France, tableaux, sculptures, des merveilles de design, des photos, des maquettes, des films. J'ai envie de dire, c'est tellement riche qu'il faut y aller deux fois.
Au Centre Pompidou-Metz, à partir de demain samedi. Merci beaucoup Sophie Orange. Notre soirée télévisée, nos programmes, dans un instant avec Isabelle Morini-Bosque. Passez une très belle journée à l'écoute d'RTL, restez avec nous.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
La télévision en deux services, en commençant avec Médiamétrie pour les audiences de la veille. Isabelle.
Eh bien, ça va être vite fait. Section de recherche est en tête avec 5 500 000 téléspectateurs et 23% du public. Mais qui est deuxième?
J'espère que c'est W9.
Eh bien, c'est W9. J'avais prévu que ça ferait plus de 3 millions. Eh bien, j'étais loin du compte. 3 700 000 téléspectateurs et 17% du public. C'est énorme. Et la W9 est juste devant M6 avec la série Scorpion. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire.
Alors, on signale maintenant le début de la 6e saison de Candice Noir sur la 2.
Oui, retour de notre commissaire blonde qui certes a maigri mais garde des courbes aussi excitantes que celles de l'audience. Cette mère célibataire de 4 enfants a changé d'équipe mais pas d'habitude. Elle continue à mêler enquête et vie personnelle. C'est parti ce soir pour 10 épisodes. Tout redémarre en fait à la fin du premier. C'est là que ça devient excitant. On en reparlera vendredi prochain. C'est avec Cécile Bois. Hein. Parce qu'il est impossible de ne pas se concentrer sur le doc que la 3 consacre à Florent Pagny, interviewé par Didier Varro. Si on peut regretter l'omniprésence de l'intervieweur, c'est mon cas, impossible de résister à Florent Pagny, 100% honnête, irrésistible quand il raconte comment, enfant, on le chassait des chorales parce qu'il avait déjà sa voix d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à 10 ans, ça peut surprendre. Oui. Beaucoup ont oublié qu'il a d'abord fait du cinéma durant 8 ans. Le frère de Depardieu dans Force Sagan, c'était lui. Les deux eurent d'ailleurs des débuts houleux. Mais en 89, c'est dans une fiction télé qu'il explose, un chef-d'œuvre absolu de Fabrice Cazeneuve appelé Fou comme l'oiseau.
Là, j'ai eu des critiques extraordinaires.
Qu'est-ce qui te prend ?
Moi, je croyais que t'étais mon ami. Je commençais à accéder aux rôles principaux en télé et le cinéma vit une énorme crise. Tous les acteurs bankable ont plus de boulot. Qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils commencent à regarder la télé. Et c'est là où je me dis, bon, eh ben, c'est le moment. Il faut bouger ton cul, sortir la carte, personne t'a amené les chansons, puis tu vas la faire toi-même. Et je force le destin en faisant n'importe quoi. Comme quoi, on peut faire n'importe quoi et réussir quelque chose.
J'adore cette chanson. C'est le début d'une folle période où il passe de fou comme l'oiseau à l'oiseau de paradis, Vanessa Paradis. Il raconte admirablement leur liaison. Il parle formidablement de ses parents, de sa femme Azucena qu'il bouleverse toujours. Il en a les larmes aux yeux. Il avance avec du recul, avec par exemple cette révélation sur son enfance.
Un vrai hyperactif. Dans les années 60, on connaissait pas bien ce phénomène d'hyperactivité. Moi, j'ai vu tous les pédopsychiatres. Ma mère, elle en pouvait plus. J'avais des traitements de semi-déséquilibré mental tellement j'étais speed. Et en fait, le jour où le cannabis est rentré dans ma vie, il m'a calmé les nerfs. Et d'un seul coup, il m'a permis d'avoir un super scanner. J'ai commencé à réaliser un peu plus qu'il y avait les autres et à beaucoup plus partager. Alors, c'est là où souvent j'explique que c'est pas pour tout le monde. Moi, j'avais 20 ans hein, quand j'ai commencé.
Ah,
à...
bon ?
Ah oui, oui, moi, j'ai pas fumé avant. Mais même une cigarette, hein. Regardais tous mes copains qui étaient déjà à la clope et je les disais, mais arrête, c'est nul, t'es en train de t'abîmer pour rien. Et puis j'ai vu les débuts des gamins avec le cannabis et c'était juste mais une horreur. Ça les rendait vraiment idiots. C'est pour ça que ça me réussit à peu près bien. Parce que j'étais formé, c'est ce que je préviens, c'est qu'avant, ça t'atrophie.
Ah, heureusement qu'il précise. Il est l'un de ceux que Johnny a fait chanter avec lui, c'est le choc des titans.
J'ai peur, mais je chantais quand même.
Le jour où tu sais que tu vas aller chanter avec Johnny, bah, t'arrives avec une telle pression, une telle... Voilà, c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve. Et en plus, moi, je disais toujours qu'il avait inventé les battles. C'est un duo, mais en même temps, on va te chercher. On va voir ce que t'as vocalement. Puis à un moment donné, bah, il sait que voilà, vocalement, il va pouvoir te mettre une couche. C'est comme une sorte de samouraï qui a une épée parfaitement aiguisée. Puis il arrive et... Le chanteur qui est avec lui sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre le dessus.
Je le chante autant que je l'aime, tu sais ça, hein. Oui, et que je le chanterai toujours.
On est des sportifs de haut niveau et on vient voir s'ils courent aussi vite ou s'ils sautent aussi haut.
Hey,
a eu fini, il est venu me voir en me disant « Bah toi, je t'ai pas eu
». Mais bien sûr, impossible d'évoquer Pagny sans évoquer le fisc et son tube « La liberté de penser ». C'est comme parler de Michelin sans parler des pneus. Hein.
La chanson qui s'est le plus vendue. J'ai peur qu'elle soit très fédératrice. Elle est ironique. Elle n'implique pas vraiment le système. Si j'avais fraudé, j'aurais été en prison. Tout ce que je peux faire sur le territoire français est assujetti à l'impôt français, au taux français. Ce que je fais dans The Voice est assujetti à l'impôt français. Moi, je suis un chanteur franco-français. Donc tout ce que je fais, c'est ici. Et l'histoire du Portugal. Le Portugal a juste des règles fiscales un peu différentes, puisqu'ils ont eu des petits problèmes en intégrant l'Europe. On leur a filé un petit coup de main. Bah voilà, il n'y a pas d'impôt sur la succession, sur l'ISF. Et ils ont un cadeau de 10 ans aux artistes. Tous les gens qui touchent des droits. Pendant 10 ans, ils font cadeau de l'impôt sur les droits. Moi, je touche même plus de droits d'auteur-compositeur. Je fais plus les chansons. La seule chose, et ça correspond à peu près à 30% de mes revenus, sur lequel je peux profiter un peu de cet intérêt-là, c'est sur mes ventes de disques. Mais on vend de disques de moins en moins. Donc, c'est juste un aménagement légal sur un couloir. Mais je payerai toujours mes impôts ici, tant mieux.
Je peux bien vendre mon âme au diable.
Et bien sûr, on le retrouve demain samedi dans The Voice sur TF1, où pour moi, il n'a jamais été aussi nécessaire.
Merci beaucoup, Isabelle Morini-Boss. Dans quelques instants, on se dit au revoir gentiment et on accueille Julien Courbet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h31, très bon week-end à tous et bonjour Julien.
Et bonjour à Gelman Lévy.
Oui. Oh, c'est méchant, c'était pour être à l'heure en plus.
Pas,
hein.
Oh, dis donc.
C'était parfait.
Parce qu'on est à l'heure quand on dit Gelman Lévy.
Vous allez lui parler sur un autre point.
Mais je lui parle bien.
Occupez-vous de vos gens, les miens, vous me les laissez.
J'essaie de me cultiver, de connaître ce nouvel éditeur afin de pouvoir acheter de nouveaux livres.
Parce que vous lisez, vous, maintenant.
Eh bien, figurez-vous que oui, des livres avec des images. Pour l'instant, je n'en suis pas encore aux phrases, mais voilà.
Je pourrais vous le lire, si vous souhaitez.
J'ai lu Petit Ouzo, et je peux vous dire qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout.
Oui.
Bon, je vous souhaite une bonne journée. Faites merci de m'avoir ridiculisé devant des millions de gens.
Au revoir.
Oh, c'est bon.